Direct en jeu, la radio insolite. Alors, je ne sais pas si je dois parler d'un jeune précoce et si je dois l'appeler Georges. Je ne sais pas. Bon, officiellement, il s'appelle Alban. Bonjour Alban.
Bonjour Alain.
Mais je sais, est-ce que je dois parler comment dire, du fait que tu as eu une révélation à 5 ans? Est-ce que je dois dire comment dire, que tu as, entre guillemets, un nom de scène qui s'appelle Georges? Comment est-ce qu'il faut que je t'appelle?
Bon, on va rester sur Alban. Hein, on...
Alban, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Dans la première question, c'est la question j'accuse. C'est qui est responsable de tout ça? À 5 ans, tu as la révélation, tu te trouves devant un clavier avec des touches blanches et noires et tu dis « j'ai envie ».
À la base, j'avais pas forcément très envie, en vrai. Hein. C'est plus ma grand-mère qui m'a dit « tu feras du piano ». Et donc, à 5 ans, je me suis retrouvé devant un piano, en sachant que bon, j'ai arrêté à 6. Donc, ma carrière de pianiste ne s'est pas emballée à ce moment-là, on va dire. mais oui, la musique est quand même restée grâce à un ami qui faisait de la guitare. Et plus tard, c'est plutôt la guitare du coup, qui a pris le dessus.
Alors, c'est marrant de passer du piano à la guitare, parce que c'est pas du tout la même chose.
Alors, c'est sûr, mais l'avantage de la guitare, c'est que on la porte avec soi, on l'emmène partout, c'est un peu plus compliqué avec un piano.
Oui, pourquoi tu peux pas emmener le piano partout? C'est plus compliqué.
Si, maintenant, des numériques avec des petites housses à roulettes, mais globalement, ça reste quand même plus léger une guitare.
Dans la présentation que j'ai eue de toi, je me suis rendu compte que tu n'étais pas n'importe qui. Tu es la petite fourmi cachée qu'on ne voit pas malheureusement assez souvent. Mais attention, tu as accompagné des artistes pas très connus. Eddy de Préto, je crois, c'est ça, quelque chose comme ça, non?
Ah oui, effectivement, oui. Bah, c'est au moment où il était en train d'exploser, donc c'est avant son premier album. Mm-hmm. Mais j'ai joué avec lui, 7 mois. 7 mois pendant le moment où il a signé avec Universal. Et après, il a changé de concept, donc il n'avait plus de musicien dans son groupe.
D'accord. Et alors, en plus, en tant que musicien, tu es aussi un globe-trotteur, puisque toi, la France, c'est pas assez grand. Donc, c'est la France, c'est l'Irlande, c'est l'Espagne, c'est la Turquie, c'est même le Canada, c'est tout. On se refuse rien.
Oui, j'ai eu envie de bouger un peu. Enfin, Espagne, Italie, Irlande, tout ça, ça a été dans un contexte de tournée de travail, donc c'était très agréable. Mmh. Et Canada ensuite, oui, je suis parti avec ce qui s'appelle un PVT, les permis de vacances travail, où on a des visas de 2 ans pour aller faire en gros ce qu'on veut de l'autre côté de l'Atlantique pendant 2 ans.
D'accord, parce que c'est pas la même chose le fait de jouer en France et de jouer au Canada? Il y a une culture différente peut-être?
Oui, bon, ça reste, comment dire, ça reste une culture qu'on connaît dans le sens où c'est, j'ai envie de dire un peu la culture occidentale, quoi. Mais quand même un rapport différent à l'art et à la musique, ouais. Ouais, carrément.
D'accord. Et en 2021, ça y est, tu te décides, tu rejoins la belle histoire du théâtre Le Hall de la Chanson, où tu te produis dans plusieurs spectacles, où tu agis, et puis surtout, tu joues et tu arranges des morceaux de patrimoine.
Yes, exactement.
Et alors? Oui, vas-y.
Ouais, non, j'allais dire que c'est une histoire justement assez drôle parce qu'il est un peu lié au Canada parce que je vivais au Canada et arrive le Covid à ce moment-là en 2020. Mmh. Et c'était le meilleur moment finalement pour. À ce moment-là, moi j'avais un appartement à Montréal que j'ai laissé tomber et je pensais voyager pendant 2 mois en Amérique du Nord. Et à ce moment-là, moi j'arrive aux États-Unis, il y a le Covid qui nous tombe dessus, toutes les frontières qui ferment. Donc c'est retour au Canada en catastrophe, puis en France en catastrophe. Mmh. Et c'est une amie qui m'héberge et moi je passe devant une affiche qui dit « Venez tenter l'audition pour l'école du Hall de la Chanson ». Et donc je me dis « Bon, bah, vu que c'est je vois un tampon ministère de la Culture, donc je me dis que c'est une formation qui doit être gratuite ou en tout cas peu chère mmh. ». Et parce que vu que j'étais parti au Canada pendant 2 ans, j'avais plus de, enfin, c'était le Covid, tout était à l'arrêt, j'avais plus d'activité, etc. Et c'est comme ça que je croise la route du hall et que l'histoire est partie en fait.
Une très belle histoire qui.
Du coup, une très belle histoire. Oui.
Parce que comment est-ce qu'on pourrait présenter le hall de la chanson?
Eh bien, je dirais que c'est le centre national du patrimoine, des répertoires patrimoniaux de la chanson, quoi. Donc, en gros, du Moyen-Âge à début 21e siècle.
D'accord, voilà. Avec plein de choses qui se font, parce que c'est foisonnant. Il y a des spectacles quasiment tous les jours.
Ouais, voilà, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs moyens de faire rayonner ce patrimoine. Bon, il y a des chansons qu'on joue, qui sont encore connues, mais il y a plein de répertoires qui, justement, on est là pour ne pas qu'ils meurent et que on continue à comment dire, qu'on puisse continuer à les entendre, même avec une langue qui est différente et des arrangements musicaux qui sont différents aujourd'hui. Mais du coup, il y a effectivement les spectacles qui produisent. Il y a l'école et les formations, donc l'école pour les étudiants et puis les formations
Les
pour
plus
les
grands.
scolaires ou pour les profs. Ouais, voilà. Et il y a aussi plein de partenariats et plein d'actions culturelles faites avec ce qu'on appelle les publics éloignés de la culture, donc dans des territoires où il y a moins de choses, moins de musées, moins de salles de spectacle, etc. Et ils sont très proches de ces territoires-là aussi.
D'accord. Alors maintenant, je vais te poser une colle. T'es prêt?
Allez.
Pourquoi au début je t'ai appelé Georges?
Eh bien, parce que le.
Parce que tout le
Parce
monde
que
il se dit, mais pourquoi il l'a appelé Georges?
je. Parce qu'un des spectacles dans lequel je suis, au Hall de la Chanson, c'est un spectacle j'allais dire sur Georges Brassens, mais c'est plus sur Alphonse Bonnaffé, le prof de Georges Brassens. D'ailleurs, ça s'appelle Le prof de Brassens.
D'accord. C'est qui Georges Brassens?
Georges Brassens, c'est un.
Connu, non? Pas connu?
Ouais, plutôt connu. C'est une des. À moi, j'ai découvert. Enfin, comment dire, je connaissais les morceaux les plus connus, mais j'ai vraiment découvert son œuvre en travaillant sur lui dans le cadre de ce spectacle au Hall de la Chanson. Et je trouve que c'est un des. Enfin, sa manière d'écrire est absolument incroyable, quoi. Je sais pas
C'est
si, en termes d'exigence et de qualité d'écriture, je sais pas s'il a des rivaux, quoi.
ouais. Alors je rappelle aux auditeurs que Direct Enjeu est partenaire du Festival 22 La Georges qui s'est déroulé au mois d'octobre à Sète et on va y retourner cette année et que quand j'étais à Sète j'ai eu l'impression qu'on parlait pas d'un chanteur, on parlait d'un poète.
Effectivement, ouais, j'entends tout à fait cette appellation.
D'accord. Et Alphonse Bonnaffé, alors c'est qui?
Eh bien, c'est le prof qui a eu, prof de français et latin qui a eu Brassens en troisième, lors de sa première troisième. Et Brassens c'était quand même plutôt un cancre à la base. Il n'était pas très intéressé par l'école.
Oh, même plus qu'à la
Et
base, hein.
ce
On peut le dire, hein, y a pas de problème.
Et sauf que cet homme-là l'a complètement ouvert à la poésie. Il lui a donné le goût des poètes, des auteurs, de lire de la poésie, d'écrire de la poésie. Et donc, ils ont eu une relation comme ça qui a perduré à travers les années, où il y a une relation de confiance et d'admiration entre les deux, qui font que c'est une belle histoire entre les deux hommes qui est née finalement en troisième, où finalement Bonnaffé était encore assez jeune, hein, c'était un très jeune prof à ce moment-là. Mais voilà, une belle histoire qui a grandi, quoi.
Alors, dans les poètes, on peut parler de Villon, de Baudelaire, de Rimbaud, de Verlaine, de Mallarmé, d'Apollinaire. C'est quand même, ce ne sont pas n'importe qui, quoi.
Ça c'est sûr. Mais c'est vrai qu'en plus ils ont il y a Brassens, mais il y a pas mal de, comment dire, je pense qu'il y a beaucoup de chansonniers en France qui se réclament de tous ces gens-là, hein. C'est pas du tout. Je trouve que c'est une mémoire qui perdure finalement d'une manière ou d'une autre.
Exactement, et puis il est toujours d'actualité, c'est surtout ça aussi.
Complètement.
Et alors, quand je crois que le spectacle, tu l'as monté avec Olivier Husnet, qui est aussi directeur adjoint du Hall de la Chanson,
C'est
moi je me
ça.
suis posé la question, avec tout le répertoire de Brassens, comment vous avez fait pour vous limiter?
Alors, eh bien, on s'est inspiré des paroles en fait d'Alphonse Bonnaffé. Comment dire, il a à un moment donné, les œuvres de Brassens, elles sont éditées dans un recueil qui s'appelle Poètes d'aujourd'hui. Et donc, c'est un truc qu'on dit dans le spectacle d'ailleurs et qui est assez drôle, c'est que l'éditeur, du coup, il lui demande un homme de lettres très célèbre pour faire la préface et tout. Et Brassens s'est dit non, 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 moi, les gens célèbres, je m'en fous, je veux pas les connaître. Et donc il demande à son ancien prof de français, Alphonse Bonnaffé, d'écrire la préface. Et donc dans l'édition de ses œuvres, il y a une quarantaine de pages de cette préface. Et donc c'est surtout, on se base surtout sur cette histoire décrite dans la préface, en fait. Ça a permis de guider le choix des chansons aussi.
D'accord. Alors, ce qui est bien, c'est que en plus de ce que j'ai eu du spectacle, vous interprétez tout sans micro. Je trouve ça original.
Ouais, bah on essaye de créer, vu que c'est le prof de Brassens, et que le début du spectacle est vraiment comme si le public assistait à un cours, on essaye de recréer cette petite ambiance intimiste d'une salle de classe, tout simplement.
Ah, chouette. Donc, on vient voir le spectacle, c'est comme si on retournait à l'école.
Effectivement, on est dans le contexte du premier cours de français et latin de Georges Brassens quand il rentre en troisième à 7.
D'accord. Mais alors, tu me parais un peu plus âgé qu'être en troisième, toi.
C'est sûr. Mais quand on c'est un petit bond dans le passé, on commence en troisième, mais on finit quand il a du succès, donc.
D'accord. Tu ne joues que de la guitare acoustique?
Non, je fais aussi guitare
Oh!
électrique. Ouais,
Choqué.
ouais,
Guitare électrique sur Georges Brassens. Ah!
Exactement.
Ah.
Mais il a un côté, je trouve, il y a des textes qui sont vraiment percutants et je trouve que leur donner un côté rock avec de la guitare électrique, ça ne met que en valeur le texte finalement.
Georges Brassens en côté rock. Pas mal celle-là, je la connaissais pas. Ah ça, alors là, on me l'avait jamais faite. Oui, pourquoi pas, on peut adapter. Tu me diras comme Brassens s'est chanté dans tous les pays, dans toutes les
Oui,
langues, pourquoi pas.
exactement.
On peut
Et puis je
aussi.
pense même à une. Moi, j'ai découvert Brassens finalement assez jeune, à 8 ans, avec une reprise de Sinsémilia, le groupe de reggae qui a repris la mauvaise réputation.
Oui.
Et je trouve que ça s'y prête. Enfin, ça s'y prête super bien. Et j'adore l'intro de ce morceau dans la version de Sinsémilia parce qu'elle dit il n'est pas nécessaire d'avoir ni des dreads ni une crête sur la tête pour être un rebelle. Et je trouve que ça décrit parfaitement Brassens, quoi.
Ah oui, parce que c'est vrai que Brassens c'était sacrément un rebelle, hein, là. Alors là, il est même d'avant-garde. Hein.
Ouais, complètement. Complètement.
Vous en profitez pour faire passer un message au sein du spectacle?
Je pense qu'il y a un message qui se déroule le long, c'est vraiment celui de la, même si c'est un terme un peu galvaudé parce qu'il est utilisé à tort et à travers aujourd'hui, mais il y a vraiment la résilience de Georges Brassens, en fait. Je pense qu'il a vraiment été mortifié suite à ces petits actes de délinquance dont on parle dans le spectacle, où il a vraiment été enfin, il était montré du doigt, il était un peu, voilà, mis au ban de la société, et en fait, il s'est vraiment plongé dans son art, plongé dans les poètes, et c'est ça qu'il a. Enfin, c'est ça qui a fait qu'il a pu écrire ce qu'il a écrit, de la manière dont il l'a écrit. Il a été toujours chose une exigence folle avec lui-même, et je pense que c'est un des plus bels exemples de résilience, en fait.
D'accord. Le spectacle est fini depuis quelques jours, hein, parce qu'il s'est joué jusqu'à la mi-février, jusqu'au 19
Ouais.
février. Tu me disais qu'il va reprendre, c'est souvent comme ça que vous faites, vous reprenez le spectacle et tout, ce qui est bien. On a l'occasion de te voir dans d'autres choses peut-être?
Actuellement, oui, on crée un spectacle qui s'appelle Rime et Châtiment, donc qui est sur des affaires judiciaires mises en chanson. Il y a une tradition de chansonniers qui vont dire en fait les actualités pour des gens qui savent ni lire ni écrire. Et donc soit ils sont devant les palais de justice, soit ils sont devant les places de village, et ça raconte des histoires criminelles de Bah des faits divers en fait, et donc c'était un peu une manière d'entendre, de transmettre l'actualité, et on réarrange des textes comme ça, et on est en train de monter ça sur donc que des chansons qui sont des histoires judiciaires du 16e au début 20e siècle en gros.
D'accord. Je suppose qu'on peut trouver toutes les informations sur le site internet du Hall de la Chanson.
Exactement,
Parfait.
exactement.
Très bien. Bah, écoute, je vais te remercier d'avoir pris ces quelques minutes pour nous expliquer tout cela. Le
Avec
Hall de la
plaisir.
Chanson, c'est aussi plein d'autres spectacles. Et alors, si vous avez l'occasion d'être à Paris, n'hésitez pas à vous faire plaisir à aller sur le site internet et aller voir ces spectacles. Parce que c'est vraiment de la haute qualité, si je peux me permettre. Et puis,
Merci.
restez toujours quand même à l'écoute de Direct en jeu. Comme ça, on vous dira quand est-ce que le prof de Brassens se reprendra au Hall de la Chanson. Merci à toi.
Eh ben, merci à toi, Alain. C'est un plaisir.